Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne. 1961-1962, les 9 premières séances du cours, la tentation. Aujourd'hui, figure de la tentation, première partie, des modes d'interdiction, enregistré le 29 janvier 1962.
En disant que la tentation était un complexe, le complexe d'une envie et d'une interdiction, c'est-à-dire un complexe ambigu et double, nous proposions en même temps de la classer de deux manières différentes, de classer des sortes de la tentation, d'une part d'après la nature de l'envie et d'autre part d'après le mode de l'interdiction, puisque ce sont les deux composantes de ce complexe. Et nous en étions donc au premier classement, qui était le classement d'après les formes de l'envie. Et en partant de la limite inférieure, ou inférieure en tout cas, de celle au niveau de laquelle il n'y a pas vraiment une tentation, nous parlions de celle dans laquelle l'envie est naturelle, et bien antérieure à l'interdiction, et qui mérite à peine ce nom, et nous en distinguions la tentation par d'abord et surtout par le caractère spécifique de la tentation, qui a toujours un objet particulier. Et en réfléchissant à cet égard sur les deux exemples, les plus caractéristiques qu'on puisse opposer, à savoir la tentation d'Adam et d'Ève au paradis et celle de Jésus au désert, nous constations que dans le deuxième cas, Jésus est affamé et a faim de pain, n'est-ce pas? Arthos, c'est le mot qui désigne pain en grec, et non point d'un fruit exotique, et non point de fruits rares, comme c'est le cas d'Adam. Mais que inversement, dans le cas de Jésus, les tentations qui s'offrent à lui, dans cet état famélique, sont quand même des tentations spécifiées, et par conséquent, qui ont toujours un caractère de luxe, de particularité, et qui méritent donc vraiment le nom de tentation. Nous disions notamment que parmi ces caractères de la tentation proprement tentante, et qui n'est pas simplement une envie et un besoin, le plus caractéristique peut-être est justement le piment particulier qu'ajoute à la désirabilité de l'objet le fait que cet objet est défendu. Et c'était, je crois, à peu près les derniers mots sur lesquels j'avais terminé, que parmi tous les caractères qui peuvent rendre le fruit alléchant, qui peuvent rendre tentant le fruit défendu, son éclat, son parfum, sa bonne apparence, le plus alléchant de tous, était surtout le fait qu'il était défendu. Et à l'égard de ce fruit défendu, l'homme se comporte comme un enfant capricieux, comme un enfant qu'il est, n'est-ce pas, comme un enfant un peu pervers, qui a justement, par un caprice irritant, qui a justement envie de ce qu'on lui refuse. Et comme un enfant qui a envie du jouet qu'il a perdu, et précisément du jouet qu'il a perdu, même si vous le lui remplaciez par un autre, exactement semblable, et a fortiori si vous le lui remplaciez par un objet 100 fois plus beau, cela ne le contenterait pas, car c'est justement celui qui ne peut pas avoir, celui qui est perdu, dont il a envie. Probablement parce que il y a, comme chez d'ailleurs dans l'adulte, le sentiment de l'occasion perdue, de la chose qui n'arrive qu'une fois, et même si elle est raisonnable, et elle est déraisonnable, précisément parce qu'elle est irremplaçable, fait l'objet du regret, et par conséquent aussi, sur le moment de la tentation. Donc, l'homme ici a envie de ce qu'on lui refuse, non point parce que ce qu'on lui refuse serait spécialement attirant ou désirable, mais simplement parce que on le lui refuse. Bien entendu, il ne manque pas de merveilles dans l'Éden, dans le jardin des délices, où tout est délicieux, où Bruegel, les peintres, n'est-ce pas, qui ne tarissent pas quand ils veulent en représenter les merveilles, nous montrent les cédras, les fruits gigantesques et exotiques qui pendent aux arbres en se proposant à l'homme, qui s'offrent de toutes parts à apaiser à sa faim et à étancher sa soif, et les sources vives qui circulent dans l'herbe et qui étancheraient sa soif. Eh bien, Ève et Adam jugent délectable le seul fruit défendu. Parmi tous ces fruits, il y en a qu'un dont ils ont envie et qu'ils veulent cueillir, c'est le fruit défendu, le fruit d'or qui pend insolemment à l'arbre perfide planté, pour comble d'ironie, au beau milieu du paradis. Puisqu'il spécifiait, je crois, dans le texte, que cet arbre est justement planté au centre, comme par une espèce de dérision. Voilà de quoi ils ont envie. C'est une folie. Quelle envie déraisonnable, quelle démence, si vous préférez, de la part, et de la part de qui? De la part d'un homme comblé, de la part d'un homme qui n'a besoin de rien, et qui, de ses propres mains, détruit donc sa félicité en cueillant inutilement et sans nécessité véritable un objet, non point indispensable, mais au contraire dispensable entre tous, dont il aurait pu facilement se passer. Eh bien, dans tous les domaines, nous vérifions, en laissant de côté cette exégèse qui finit par me fatiguer moi-même, nous dirions que la spécialisation sélective est toujours un des traits dominants de la tentation proprement dite. L'homme est tenté par tel fruit, par tel bijou, par tel joyau dans une devanture, par tel diamant qui luit de tous ses feux. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles un des domaines privilégiés de la tentation, même si nous n'en parlons pas tout le temps, nous y pensons bien quand même, n'est-ce pas, et nous en reparlerons quand même, à des domaines privilégiés de la tentation, même quand on n'en parle pas, c'est le domaine de la vie sexuelle. Et ça peut se comprendre, puisque c'est justement le domaine dans lequel la tentation est le plus spécialisée et le plus spécifiée, puisque c'est telle personne, telle femme qui en est l'objet, car il est bien rare que l'homme soit tenté par la femelle en soi, n'est-ce pas, la femelle en général, conçue comme abstraction, comme concept. Ce n'est le cas que d'un homme à femme, vraiment affamé. Mais en général, il s'agit de tel ou tel être particulier et pris d'une manière particulière. Et d'autre part, non seulement par le fait même que l'objet de la tentation n'est point un objet inanimé ou même un fruit, mais un être vivant, une liberté comme la nôtre, et où par conséquent la spécialisation qualitative et sélective est le tout même de la tentation, mais encore, ce qui montre bien qu'il s'agit pas d'un besoin, ou rarement d'un besoin, ou d'un besoin apparent, c'est en effet une envie dont le propre est d'être perpétuellement et indéfiniment ajournable, en dépit des complaisances qu'on peut lui prodiguer, car lorsqu'elle semble n'être pas ajournable, c'est uniquement en raison de la complaisance de l'homme, et pas autre chose. Elle peut être indéfiniment retardée, sauf complaisance furtive. Et par conséquent, elle n'est jamais besoin d'être satisfaite à tel moment plutôt qu'à tel autre, comme l'est la faim. Et par conséquent, elle n'est pas véritablement un besoin. Et puis ces deux caractères, l'un qui est la spécialisation sélective, d'autre part, l'autre qui est la possibilité quasi indéfinie de l'ajournement, ou en tout cas le fait que la satisfaction n'est jamais requise à tel moment plutôt qu'à tel autre, comme l'est par exemple le besoin de dormir ou de sommeil, tout cela contribue à faire de ce domaine humain, entre tous, le domaine privilégié de la tentation, celui dans lequel elle sera le plus facilement étudiée, et lorsque nous étudierons plus tard, dans la troisième partie de ce cours, mais en étant encore à la première, je ne sais pas si j'y arriverai cette année, c'est le domaine qui nous retiendra le plus, et c'est aussi celui dont parlent le plus les spirituels, les théologiens, les moralistes, parce que quand il s'occupe de la tentation, il s'occupe moins de sa nature que des moyens de la combattre, et c'est dans ce domaine qu'ils veulent la combattre, puisque c'est de celle-là surtout que s'occupe, par exemple, un homme comme saint François de Sales. Eh bien, dans le cas que nous venons d'étudier, au-delà de l'envie purement naturelle, et qui n'est pas vraiment une tentation, nous voyons que la défense, le veto, l'interdiction est le principal attrait du fruit défendu. Mais ce n'est pas le seul, n'est-ce pas ? C'est plutôt, si vous voulez, un attrait supplémentaire, particulièrement piquant, particulièrement pimenté, qui transforme l'envie en tentation, qui est le principal attrait du fruit défendu, mais tout cela est sur la base d'une envie, d'un désir, et notamment de la désirabilité d'un fruit, qui est fait pour qu'on en jouisse, comme l'indique le verbe fruit. Le fruit est fait pour qu'on en jouisse, et donc cet attrait lui-même n'agit que parce que le fruit est déjà appétissant et que personne n'est insensible au parfum d'un fruit succulent, même s'il n'est pas défendu, même s'il est autorisé. Et de même que l'homme convoite la femme de son prochain, comme nous disions la dernière fois, spécialement parce que c'est son prochain et que ce n'est pas la sienne, mais enfin, si elle est belle, n'est-ce pas, on n'est pas non plus insensible à ces choses-là. Donc indépendamment même que cette femme n'est point la sienne. Voilà donc ce qui, d'ailleurs, Platon dit lui-même que l'amour a pour matière to kalon, la chose belle, qui est donc objective et qui a un caractère toujours objectif et indépendant même de l'interdiction que l'on peut en faire. Eh bien, il peut arriver maintenant que l'interdiction ne soit pas un attrait supplémentaire qui vienne s'ajouter au précédent, mais qu'il soit la seule raison de la tentation. Qu'il ne soit pas le principal, mais le seul. Dans les cas précédents, il était le principal, mais non pas le seul. Et dans les cas que nous nous mentionnons, je ne veux pas dire que nous étudions, mais que nous mentionnons, il faudrait maintenant placer les tentations dans lesquelles l'interdiction est le seul motif véritable de la tentation. Par exemple, le fruit défendu n'est point un beau fruit, enfin appétissant, mais c'est une misérable châtaigne. Une médiocre châtaigne que personne ne remarquerait même si une loi bizarre n'interdisait de l'accueillir et immédiatement n'attirait l'attention de l'homme sur cette châtaigne en lui donnant aussitôt l'envie d'en goûter. Alors dans le cas de la misérable châtaigne, il est bien évident que l'interdiction est la seule raison. N'est-ce pas, ça n'est pas une raison supplémentaire, mais c'est la seule. Il y aurait donc maintenant à distinguer des cas précédents dans lesquels le veto était un moyen de crescendo, d'auction, n'est-ce pas, comme nous disions, un moyen de corser l'envie, d'en relever le goût, de l'assaisonner. D'en distinguer, dis-je, le cas dans lequel le veto crée à lui tout seul l'envie et la crée de toute pièce, dans lequel ce n'est point un piment qui relève le goût d'un mets délectable sans le piment, mais c'est l'homme qui mange du poivre, n'est-ce pas, il mange du piment, tout pur, n'est-ce pas, sans rien d'autre, puisqu'il n'y a plus une exaltation ou une enchère, une exaltation de l'envie préalable, mais que l'envie est créée par le veto tout entière. Cette fois, comme vous le voyez, le rôle de la défense n'est donc point d'exalter des délices plus ou moins imaginaires et de rendre l'attrait plus prestigieux, comme dans le cas précédent, dans lequel l'obstacle n'était pas à proprement parler un motif objectif, et surtout un motif psychologique de l'envie, mais en était en quelque sorte la raison métaphysique, l'homme visant à recréer, comme j'ai dû l'indiquer la semaine dernière, les conditions métaphysiques de la vie organique, qui est d'être nié pour pouvoir s'affirmer, qui est de créer donc artificiellement l'antithèse, mais d'une manière passionnelle, dramatique, à l'intérieur de la tentation, puisqu'aussi bien nous montrions que l'homme ne vit que de cette manière-là, c'est-à-dire par l'exaltation que nous apporte l'obstacle et la résistance. Et cela est appliqué dans la vie même de l'organisme en général, dans la vie de l'homme tout court, seulement sous forme, disions-nous, de structures viables et stables, qui sont un être vivant lui-même, une personne, un organisme. Dans la tentation, l'homme la crée lui-même d'une manière intermittente, dramatique, particulièrement passionnelle, et qui fait battre le cœur, et qui est le drame proprement dit, le drame de la tentation. Maintenant, on pourrait du reste montrer que, en fait, cet obstacle, qui n'est point une raison psychologique à proprement parler, mais qui est une grande loi de la vie, une loi que l'on appellerait volontiers dialectique, si on ne répugnait pas toujours à employer ce mot qui traîne dans tous les ruisseaux, aujourd'hui, dans tous les ruisseaux du journalisme, nous dirions aussi que, après tout, c'est aussi, d'une certaine manière, un motif psychologique, malgré tout, c'est d'une certaine manière un motif psychologique, dans la mesure où le plaisir de vaincre un refus, de forcer une porte, de défier un veto, sont quand même des manifestations de notre puissance et de notre liberté. Au moins à ce titre, ce motif redevient psychologique. Quoi qu'il en soit, le rôle de l'obstacle tel que nous l'étudions maintenant n'est donc plus simplement d'exagérer, d'aviver notre impatience ou notre curiosité, d'exagérer les promesses de la volupté mystérieuse, de la jouissance inconnue qui nous est procurée par cet arbre indiscernable des autres, mais dont je ne sais pour quelle raison les fruits m'ont été défendus en haut lieu, et de là à imaginer la jouissance infernale parce qu'illégal et délicieusement et exquisement illégal qui m'est réservé si je goûte à ce fruit, et donc de faire miroiter un mirage. Je répète que maintenant le fruit, objet de jouissance, n'a point d'autre attrait que la défense elle-même et rien d'autre, et qui Et probablement peut-être que, enfin, on passe de l'un à l'autre, du cas précédent au cas actuel, par une série de transitions insensibles, et après tout, je ne sais dans lequel ranger l'exemple immémorial de la Genèse, qui entrerait aussi bien dans l'un que dans l'autre, parce qu'après tout, il est probable que si Dieu, mais il a probablement fait exprès, il avait ses raisons, n'avait pas dit à Adam de ne pas manger à l'arbre, au fruit de l'arbre, il est possible que Adam n'aurait jamais même remarqué la créature, n'aurait jamais même remarqué ce fruit si semblable aux autres, et mais il fallait, pour certaines raisons, qu'il le remarquât. Et à la limite, encore, en allant de fil en aiguille, c'est-à-dire au moment où nous allons quitter entièrement le domaine de la tentation, en poursuivant dans la même direction, probablement nous quitterions finalement le domaine de la tentation, qui était également étranger au premier exemple que j'ai donné, c'est-à-dire à l'envie naturelle, en montrant qu'il peut arriver que ce soit finalement par un glissement de motif, par un transfert de motif, l'interdiction elle-même et en soi qui devienne tentante. Non seulement ce n'est plus c'est l'obstacle qui crée de toute pièce le veto, mais peut-être que c'est le veto lui-même, c'est le plaisir du refus qui en lui-même devient objet de jouissance, et directement. L'homme étant tenté par la difficulté elle-même, par le risque que cela comporte, par l'attrait des défenses, des menaces que cette défense comporte, par le désir du néant, et d'ailleurs nous ne sommes pas si loin du désir du néant, puisqu'il est menacé de mourir s'il mange au fruit. Eh bien peut-être que, au fond, dans les profondeurs les plus secrètes de son être, et, bien sûr, je ne fais plus un commentaire, parce que on ne peut pas accuser la Bible de penser à tout cela. C'est nous qui y pensons, en la prenant comme prétexte à nos réflexions. Nous pouvons nous demander si dans l'obscur inconscient de cet être premier, primitif, par-delà, bien entendu, l'attrait du fruit qui est secondaire, par-delà même l'attrait de la défense qui rend l'envie plus grande, mais qui est aussi secondaire, il n'y a pas le désir de mourir. N'est-ce pas ? Il n'y a pas un secret désir de mourir, puisqu'il est menacé de devoir mourir s'il en mange. Et c'est donc l'attrait du danger, et notamment le désir du néant, le désir du rien, de s'annihiler, le désir de la nihilisation qui veille en chaque homme, et qui, en dernière analyse, par le paradoxe le plus aigu, expliquerait la tension extrême, et finalement que l'homme succombe librement, consciemment, malgré la menace divine, succombe à cet attrait si frivole et si superficiel. Donc en définitive, c'est, comme vous le voyez, ce désir de mort auquel il faut en revenir. L'homme est tenté non seulement par le risque, mais par le danger, mais en général par ce qui fait le dangereux en tout danger, ce qui fait le périlleux de tout péril, et qui est le risque de mourir, sans lequel un danger ne mérite même pas le nom de danger. C'est donc cela qui, finalement, est la raison, puisque tout le reste n'est plus qu'un prétexte de démesurément grossi. Cette fois, comme vous le voyez, l'homme est tenté sans même passer par l'envie. Ce n'est plus en réalité une tentation, puisque, en somme, dans cet état, eh bien, il est satisfait d'être tenté, et c'est la privation elle-même qui le comble. C'est la tentation elle-même qui devient tentante. Par conséquent, elle n'est plus la tentation, puisque, en somme, l'homme est comblé dès l'instant qu'il est tenté. Puisque c'est la tentation qu'il désire, eh bien, il joue avec la tentation elle-même. Bien entendu, la déception en cas de satisfaction sera encore plus grande. On comprend que ceci se rapporterait plutôt au cours que j'ai fait l'an dernier. Dans les cas précédents, la déception était attendue et naturelle, puisque la moitié de l'attrait du fruit défendu, c'était la défense, n'est-ce pas ? Le veto lui-même, paradoxalement, figurait pour moitié dans l'attrait de ce fruit. Si bien que lorsque j'en aurai mangé, je verrai que c'est un fruit comme tous les autres, même passablement bon. Et l'attrait principal, qui est, une fois que j'aurai outrepassé et enfreint à la défense, aura disparu. Par conséquent, je suis promis à une déception inévitable, en raison du caractère imaginaire et purement illusoire de l'attrait de ce fruit qui est dans la défense. Mais dans le cas qui nous occupe maintenant, c'est peu de dire que je suis promis à la déception. L'homme sait par avance que la satisfaction du désir, c'est la faillite, par définition même, puisqu'il est privé de son de sa nourriture la plus précieuse, la plus choisie, celle dont il fait son aliment quotidien, et qui est la privation, qui est l'austérité, n'est-ce pas ? En même temps que le désir du néant, il y a en effet chez les hommes un désir de l'austérité, un désir secret de la privation qui explique les guerres. Les hommes sont charmés, au fond, d'avoir à se priver, d'avoir à jeûner. Il y a en lui donc ce goût masochiste, doloriste, de la privation, qui est évidemment ipso facto supprimé par la satisfaction du besoin ou de la pseudo-nation. Si bien que l'homme n'a que des raisons de s'éterniser dans ce qu'il n'a pas du tout d'intérêt à satisfaire. Nous allons maintenant reprendre le même classement, mais en répétant parfois les mêmes choses, un peu trop souvent, peut-être, à mon gré, mais si ça n'a pas été clair la première fois, espérons que ce le sera la deuxième. Je veux dire en classant maintenant les sortes de la tentation d'après les modes de l'interdiction, et non plus, comme tout à l'heure, d'après la nature de l'envie, puisque je répète qu'il faut les deux pour composer une tentation. Eh bien, en les classant maintenant dans le sens un peu inverse, pour rejoindre le propos que je viens de tenir sur les modes de l'envie, nous mettrions tout à fait au début les tentations dans lesquelles la tentation qui est tendue par une interdiction gratuite et arbitraire. En premier lieu, si c'est du mode de l'interdiction que nous tenons compte, il faudra placer la tentation tendue par une interdiction qui ne se justifie que par elle-même, par une interdiction immotivée, qui n'est pas fondée sur des raisons idéologiques, qui n'est pas fondée sur des raisons tout court. Et encore une fois, c'est un peu le cas, j'ai eu l'occasion de le dire au moins il y a 15 jours, c'est un peu le cas du veto immémorial de la défense par excellence qui est formulé dans ces premières pages de la Bible, veto immémorial, puisque les raisons données par Dieu sont des mauvaises raisons, si j'ose juger des raisons données par Dieu, c'est-à-dire des raisons insuffisantes, et même c'est pas des raisons du tout, c'est le contraire des raisons, c'est une défense assortie par des menaces. N'en mange pas, ça, si tu manges, tu mourras. Mais c'est pas une raison, ça, c'est une menace. Et on nous dit pas pourquoi il faut pas manger. Et d'abord, Dieu ne cherche même pas à la fonder. Et c'est pourquoi il prête à toutes les arrière-pensées et à des calomnies du serpent, au ragot du serpent, qui dit, lui, si Dieu te défend de manger, c'est parce que il sait que si tu manges, tu sauras le bien et le mal. Tes yeux seront dessillés, et d'ailleurs tu mourras pas. Donc, il dit que les menaces sont des galéjades, ce sont des menaces de Gascon, que l'homme ne mourra pas du tout. Pour faire comprendre, je tiens ce langage sacrilège. Ces raisons qu'il prête à Dieu sont des raisons qui n'ont rien de divin. Ça veut dire que Dieu est jaloux de sa créature. Il veut pas que sa créature sache le bien et le mal. Il veut pas qu'elle soit forte en morale, par exemple. Il veut pas qu'elle connaisse la morale, en général. La distinction du juste et de l'injuste, en voilà une raison. Vos yeux seront dessillés. Raison de plus. Donc, mangez pour que vos yeux soient dessillés. Et il veut pas, en somme, que la créature soit aussi clairvoyante que lui. Et il ferait mieux de le dire. Il préfère qu'elle reste abrutie. Enfin, il préfère qu'elle reste naissante. Et il ne veut pas niaiser son innocence. Et en réalité, il faut comprendre, car ça fait partie de notre recherche, d'étudier cette tentation élémentaire, n'est-ce pas ? C'est une tentation créée par une interdiction qui est donc originelle, puisqu'on nous place à l'origine, c'est un péché, le péché qui va être commis tout à l'heure est un péché originel, tout est originel là-dedans. Le péché que l'homme va commettre, la tentation, le désir défendu qu'il va éprouver, tout cela est primordial et originel. C'est-à-dire que tout cela est avant la distinction du bien et du mal, au-delà de la disjonction de l'un et de l'autre, au-delà de ce que les théologiens appelleront d'ignoscentia, c'est-à-dire la double connaissance, la connaissance du bien qui implique celle du mal, et vice-versa, puisqu'on ne peut, en vrai, en vertu de la loi de relief, connaître l'un sans connaître l'autre. La connaissance du juste étant ipso facto celle de l'injuste. Donc, il s'agit d'un état prémoral, antérieur au jugement de valeur, antérieur à la fission morale, à la scission au grand effet de relief, à la grande polarité, au grand effet d'antithèse, sans lequel il n'y a pas de vie morale, c'est pas la grande antithèse manichéenne du bien et du mal. Nous sommes placés donc par-delà. Donc, si on peut donner un fond de vérité à la calomnie serpentine, n'est-ce pas, aux insinuations d'un serpent, nous dirions que simplement que Dieu veut garder sa créature dans cet au-delà, ce par-delà de la dignoscentia. Il ne veut pas la déniaiser, il ne veut pas que s'opère la fission du bien et du mal. N'est-ce pas, il veut donc pas que la créature apprenne cette distinction. Or, il est clair, donc, dans ces conditions, que lorsqu'il demande à la créature, il lui interdit de manger au fruit de l'arbre, il ne peut pas lui indiquer les raisons, parce que s'il les lui indiquait, la créature ne pourrait pas les comprendre. Et si la créature les comprenait, ça voudrait dire qu'elle sait ce que c'est que le bien et le mal. Si Dieu disait à la créature, tu n'en mangeras pas parce que je ne veux pas que tu saches le bien et le mal, de deux choses une, ou la créature ne comprendrait pas, et c'est pas la peine de le lui dire, ou bien elle comprendrait, et c'est donc qu'elle sait déjà qu'il y a un bien et un mal, donc elle sait tout, elle sait le reste, elle sait ce que c'est que le péché, et elle est donc sortie du stade de l'innocence originelle. Et c'est donc qu'il y a un désir de préservation qui est l'origine même de la première tentation, de la préservation de l'innocence. Si bien que nous pouvons comprendre maintenant, en mettant de côté la Bible, que dans cet éon suprahistorique, pré-moral, antérieur à la distinction morale du bien et du mal, le veto ne peut être qu'arbitraire. N'est-ce pas ? Le veto tel qu'il est formulé ne peut être qu'arbitraire. C'est défendu parce que c'est défendu. C'est défendu parce que c'est défendu. C'est donc une interdiction nécessairement infondée, immotivée et injustifiée, infondée parce qu'elle sera elle-même le fondement de toutes les interdictions ultérieures et qu'il faut bien que ce qui fonde les autres interdictions, elle n'est pas lui-même de fondement. Ce qui fonde le reste et qui est le fondement n'a pas à son tour de fondement, sinon nous irions à l'infini, de nouveau. Et c'est donc, si vous voulez, mettre à l'envers les expressions de Kant, un prohibitif catégorique, non point un impératif catégorique. C'est commandé parce que c'est commandé, c'est-à-dire il faut le faire parce qu'il faut le faire, ou ce qui revient au même parce que c'est bien, et que le bien n'a pas à donner ses raisons, mais inversement, il ne faut pas le faire parce que c'est mal, il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas le faire. C'est donc un prohibitif hypothétique, un prohibitif inconditionnel et qui n'est fondé que sur lui-même. Et non seulement il est inconditionnel et catégorique, au sens kantien du mot, et anhypothétique, mais encore, on peut même dire que si l'on voulait parler le langage de la raison, qui distingue le juste et l'injuste, qui distingue les valeurs, l'utile et l'inutile, on dirait que cette interdiction est même franchement déraisonnable, car elle est déraisonnable à tous égards, elle est déraisonnable d'abord par rapport au... Elle dément à la fois la sensibilité et la raison, n'est-ce pas ? Elle est déraisonnable et anti-humaine, parce qu'elle s'inscrit à la fois en faux, c'est pourquoi elle est le comble de l'insondable et du mystérieux, à la fois contre la sensibilité et contre la raison. Contre la sensibilité d'une part, parce qu'il s'agit d'une chose appétissante en elle-même, qui parle agréablement le langage des sens, pour la vue, pour l'odorat qui la renifle, pour les yeux qui la contemplent, et ainsi de suite. Et surtout, elle parle à l'avance, au palais, à la langue, qui savoureront sa saveur. Mais en plus, il s'agit d'un démenti aussi à la raison, puisque les perspectives qui nous sont ouvertes par cette éducation, la gestion du fruit, sont franchement souriantes, elles aussi, et alléchantes. C'est le cumul du savoir et de l'immortalité. C'est très alléchant, une pareille perspective, d'être à la fois de savoir et de ne pas mourir. Si bien, tandis qu'il semblait jusqu'à présent que l'homme fut frappé par la malédiction de l'alternative, savoir à condition de mourir, c'est ce qui va lui arriver, ou pas ? Ses yeux seront dessillés, mais il mourra, ou bien au contraire, ne jamais mourir, mais sans rien savoir. Qu'est-ce que vous préférez ? Donc, le savoir avec la mort, ou bien, au contraire, la naissance, l'immortalité dans la naissance. Eh bien, ce qui nous est promis, ce serait le cumul des deux. Et donc, une victoire sur l'alternative. À la fois, le savoir et la science. Le savoir et l'immortalité. Les deux choses ensemble. Corrélativement, donc, à ce veto gratuit, n'est-ce pas, au moins gratuit, au moins inexplicable, mais presque déraisonnable en même temps, il y a, nous l'avons vu dans le classement précédent, une fruition qui elle-même est enfin presque perverse à son tour, et qui est une perversité presque gratuite, puisque, comme nous l'avons vu, cette pomme est belle, mais surtout, c'est une pomme défendue, et que c'est cela qui fait son attrait. Donc, à son tour, la volonté enfreint la loi pour le plaisir de l'enfreindre. La loi défend parce que c'est défendu, et la volonté qui lui rend la monnaie de sa pièce, en somme, c'est la prêter pour un rendu, elle enfreint la loi pour le seul plaisir de la défendre. On comprend donc que la loi arbitraire, insondable, injustifiée, antérieure à toute axiologie et à toute table des valeurs, soit l'origine du péché radical, puisque, en somme, son fondement, c'est la volonté autocratique de Dieu, c'est-à-dire le bon plaisir de Dieu. Mais je devrais ajouter, si je voulais être complet là-dessus, mais bien sûr, c'est l'autre mode de la tentation, maintenant, dont je dois parler, il faudrait ajouter que, dans ces textes, Dieu veut que la créature conserve son innocence. Non seulement il veut la lui préserver, mais encore, il veut qu'elle la conserve librement. Il veut qu'elle la conserve, en somme, il veut qu'elle doive cette innocence à son obéissance elle-même, à sa libre obéissance, à une obéissance librement consentie. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'il s'éclipse pendant la séance, c'est pas pendant la scène, pendant l'épreuve. Il se garde bien d'être là, il est caché, c'est pas, on ne le voit pas. Au moment où le serpent raconte son boniment, où est Dieu ? Dieu n'est pas là. Il aurait mieux fait d'être là, n'est-ce pas ? Donc, il n'est pas là, lui qui pourrait être partout, il n'est pas là. Pourquoi ? Pourquoi n'est-il pas là ? Eh bien, pour que la créature soit libre, n'est-ce pas ? Pour que le libéral arbitre, comme dit Saint-François de Sales, le libre arbitre, pour que ce libéral arbitre, cette liberté de la volonté, puisse dire oui ou non en toute indépendance. Mais il faut avouer, d'ailleurs, que... Adam et Ève ne se servent guère de cette liberté qui est pourtant leur essence. Et Dieu rend hommage à cette essence de sa créature. Il la traite comme son égal en cela, mais sa créature fait comme si elle n'était pas libre, puisque, comme nous l'avons vu et comme nous le redirons, elle cède tout de suite. Et donc, à cet égard, on peut bien dire que cette scène est en effet une épreuve, au sens que nous donnions à ce mot avec les théologiens au début de ce cours, peirasmos, c'est une épreuve pour la liberté créaturelle et une épreuve originelle, primordiale, parce que probablement cette épreuve était nécessaire à l'amorçage de l'histoire, à la scission éthique et aux fautes qui s'en suivront. Mais tout cela n'est plus notre propos et je passe maintenant au deuxième mode de la tentation, des tentations classées d'après la nature de l'interdiction. Il faut bien que j'en parle et que j'en dise un mot pour être complet. Et car c'est un domaine dans lequel, par ailleurs, la tentation n'est pas vraiment une tentation, n'est point, dans notre langage, véritablement tentante. Dans ce deuxième mode, l'obstacle qui est le ressort intérieur, caché, ésotérique, de la tentation, dont l'envie est l'aspect exotérique, cet obstacle n'est plus une interdiction arbitraire et insondable, qui serait par exemple un commandement divin, mais l'obstacle, c'est une impossibilité matérielle. C'est un sens usuel de la tentation, qui nous fait souvent en parler par abus de langage, dans la vie courante, et dans laquelle la tentation n'est pas véritablement tentante. J'ai envie d'une chose que, pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas capable de me procurer. Le bijou est trop cher. Je ne suis pas assez riche. La femme est trop loin. Avoir envie d'un joyau qui appartient à un raja hindou, n'est-ce pas ? Avoir envie de la plus belle princesse du monde, n'est-ce pas ? Ce sont donc des choses inaccessibles. C'est donc la déraisonnable envie serait ici plutôt une anomalie. Et est-ce que l'inaccessibilité du désirable, car c'est en cela que consiste maintenant l'obstacle, est-ce que l'inaccessibilité de la chose désirable suffit à créer une tentation ? Assurément non. Puis-je dire, au sens propre du mot, que je suis tenté par les bijoux de ce raja, n'est-ce pas ? Ou que je suis tenté par la princesse la plus belle du monde ? Évidemment, c'est un abus de langage. C'est plutôt, enfin, une manière de parler littéraire, et une complaisance. Et nous aurons aussi à distinguer, quand nous parlerons de la lune, lutte contre les tentations, la complaisance de l'homme à la tentation, qui se figure qu'il est tenté, qui se met en scène tenté lui-même, qui se représente son propre drame dans une glace, tendue vers ce joyau inaccessible. Il ne fait pas, malgré sa comédie, que ce soit vraiment une tentation, c'est plutôt un vœu platonique, puisque c'est une complaisance, plutôt qu'une tentation sincère. Quand nous parlons de la tentation, il va sans dire qu'elle n'est telle que si elle est sincère, que si l'homme se considère comme sincèrement tenté. Or, il est facile de comprendre pourquoi ce deuxième mode de tentation n'entre pas exactement dans l'objet de nos recherches, bien que j'ai dû lui trouver une place, une petite case dans ce que je dis. C'est que je ne suis pas au bord de la chute, je ne suis pas sur le rebord, je ne suis pas en situation vertigineuse. Et j'ai souvent montré qu'un des caractères de la tentation, c'était l'homme sur le bord, l'homme en proie au vertige, Jésus sur le pinacle du temple. Et nous avions parlé, sauf erreur, au début de ce cours, des statues baroques, n'est-ce pas, qui sont sur le point de tomber dans le vide, au bord du monument, qui tiennent par un prodige d'équilibre. Tel est l'homme devant la chose tentante. Si l'homme n'est point sur le bord, sur le rebord, il n'est tenté que d'une manière littéraire, n'est-ce pas. Or, quand il s'agit de la princesse lointaine, de la princesse Chebaka, du Côte d'Or, je peux pas dire que je sois sur le bord, je l'ai jamais vue, elle est très loin, inaccessible. C'est donc, ma candidature est une candidature sans conséquence. C'est une candidature qui n'engage à rien, si vous voulez. La condition essentielle de la tentation, en un mot, mais je reviens encore à notre recherche que nous avons faite il y a 2 ans, c'est l'immédiateté. La condition essentielle, pour l'appeler par son nom, de la tentation véritable, c'est l'immédiateté. Et sans l'immédiat, une tentation qui n'a pas pour objet une chose immédiate n'est pas une tentation sérieuse ni sincère. Quand nous parlions du vertige, de l'homme sur le bord, c'est une autre manière de dire que l'homme était tenté sans intermédiaire, sans moyen terme, que le tenté est en instance de chute, d'une part, et d'une chute effective, d'autre part. Il faut que la chute soit prochaine, que je ne sois pas séparé d'elle par un intervalle de temps, et que, d'autre part, cette chute soit réelle, et ne soit pas une chute en idée, et l'idée simplement de tomber, et non point la chute elle-même. L'effectivité, d'une part, d'autre part, l'immédiateté, dans le temps, sont des conditions essentielles de la tentation, et on comprend ce jour pourquoi elles sont liées à l'usage de la liberté véritable. Or, du vertige, de ce vertige, non point d'hétéronomie, comme chez Renouvier, mais d'un vertige de liberté sur le bord de la chute, il n'y a pas d'autre tentation que verbale et littéraire. Ce que je dis de la tentation pourrait se redire de l'aventure, puisqu'aussi bien j'ai montré également, mais je crois que j'ai déjà tout montré et que je pourrais terminer mon cours aujourd'hui, que, en somme, l'aventure était également une tentation. La tentation de l'aventure était une tentation essentielle et privilégiée, caractéristique, et qu'il n'y a pas d'aventure véritable sans un danger imminent et sans la chose prochaine. On revient toujours donc à la chose prochaine. En un mot commençant, la tentation suppose le désirable à la portée de la main, le désirable prêt à être cueilli, et que je sois de plein pied avec ce désirable, comme Jésus n'a qu'un mot à dire, n'est-ce pas, et les royaumes de la terre sont à ses pieds et sont à sa disposition. Il n'a qu'un mot à dire et Satan lui offre les puissances et les dominations. Et Adam, de son côté, n'a qu'un geste à faire, et d'ailleurs il le fait, et il n'est pas difficile à faire. Quoi de plus simple, de plus facile, de moins fatigant que de cueillir un arbre sur un fruit? Et justement, la mise en scène pour d'un fruit sur un arbre, la mise en scène volontaire du texte biblique a fait en sorte que les conditions soient toutes réunies pour l'exercice de la liberté sans aucun obstacle. Le désirable est donc vraiment épémoï, comme dirait Épictète, à ma disposition. C'est donc s'il y a un obstacle, nous avons affaire au complexe de Tantale. Au désir de Tantale, qui n'est même pas un complexe d'ailleurs, c'est plutôt la tentation qui en est un, et non point une tentation. En troisième lieu, j'ai parlé précédemment d'une interdiction arbitraire, gratuite, et en deuxième lieu d'un obstacle matériel ou d'une impossibilité matérielle qui me donnait la possibilité de parler par manière de dire d'une tentation, alors qu'il n'était pas vraiment question de tentation. Un troisième exemple dans lequel je me demande aussi si on peut vraiment en parler, si bien que Au fond, à l'issue de ce cours, je verrai qu'on peut rarement en parler. On a rarement le droit de parler véritablement d'une tentation. Dans le troisième cas, l'obstacle n'est ni matériel, ni à proprement parler moral, puisque ce serait cette fois vraiment la tentation, l'obstacle est plutôt de nature rationnelle, raisonnable. Ce serait le cas de ce que j'appelais, dans les séances précédentes, l'inhibition par opposition à la prohibition. L'inhibition soucieuse opposée à la prohibition scrupuleuse. L'inhibition soucieuse. Cette fois, l'envie est déraisonnable. Ce n'est pas, comme dans le premier cas, la loi qui est déraisonnable ou insondable. C'est l'envie qui l'est. Et l'envie est déraisonnable parce que la loi qui l'interdit, à son tour, est une loi raisonnable et même rationnelle. En d'autres termes, le principe du veto qui donne son piquant et son ressort, son air à la tentation, le principe du veto, c'est la prise en considération du futur, de la temporalité, de la plus grande étendue possible de futur, de la plus grande étendue possible de temporalité. Par exemple, la prévoyance qui est le principe du souci. De quel nom appeler le désir que j'ai d'un fruit dont je sais qu'il me fera mal? Le fruit m'est défendu par les médecins. C'est un fruit qui est mauvais pour moi. Il n'y a aucune considération de morale là-dedans. C'est une considération purement de prophylaxie, d'hygiène, de médecine. D'autre part, ce n'est pas non plus une impossibilité matérielle. Il est à ma disposition. Donc, l'obstacle n'est ni matériel, ni moral. Mais l'obstacle est inhérent à la raison prospective, à la raison prévoyante, qui fait acception du futur, et qui, par-delà la jouissance momentanée que me procurera la fruition de ce fruit délectable, m'annonce les soucis qui s'en suivront, et que j'anticipe, que je préimagine tous les inconvénients qui résulteront pour moi de l'absorption de ce fruit. Et c'est cela qui me retient. Il y a donc, comme vous le voyez, une synopse temporelle, le panorama temporel. Le principe de l'interdiction, c'est le panorama temporel, et par conséquent, l'interdiction, l'alternation est ici le combat de la précaution et du désir. Je dis bien le combat, dans notre langage, que j'ai voulu le plus précis possible, et non point le débat, n'est-ce pas ? Non point un débat déchirant, mais un combat entre deux choses. L'homme est tenté parce qu'il est prudent, parce qu'il est prévoyant. Mais est-ce là une tentation ? C'est ça une tentation. D'abord, ce qui retient l'homme, ce n'est point un impératif catégorique qui n'a pas à donner ses raisons, un impératif qui se justifie parce qu'il est lui-même, parce que la chose est défendue ou parce qu'elle est ordonnée. C'est un impératif hypothétique, comme dirait Kant. C'est ma santé. Mais est-ce que ma santé est nécessaire à l'ordre du monde ? Est-ce que c'est une considération morale, surtout si il s'agit d'un homme qui n'a pas d'enfant, dont l'existence est inutile à tout le monde, peu importe sa santé. Donc, la morale n'a rien à voir là-dedans. C'est donc un impératif hypothétique et même égoïste, puisqu'il ne concerne que lui. Et, d'une part. Et d'autre part, nous disons que l'homme est déchiré entre l'intérêt immédiat de l'attrait voluptueux et l'intérêt supérieur, lointain, de sa santé, de son bonheur. Donc, il est déchiré entre deux intérêts, un petit et un grand. Mais est-ce qu'un homme déchiré entre deux intérêts est vraiment déchiré ? Est-ce qu'on peut dire, autrement que par manière de parler, qu'il est déchiré ? Un homme déchiré entre deux intérêts est-il déchiré ? Est-il écartelé ? Autant dire qu'un monsieur à la bourse qui se demande, ou un homme qui parie, qui hésite entre deux chevaux et pariant aux courses, est déchiré, écartelé. Ce n'est pas un conflit moral, il hésite. Il voudrait gagner, simplement, il se demande de quelle manière gagner le plus efficace. Efficacement, c'est son intérêt des deux côtés. La similitude de ce qui est en cause des deux côtés, n'est-ce pas, et qui est des deux côtés son intérêt, l'intérêt de l'instant d'un côté, l'intérêt de la plus grande durée de l'autre, fait qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de tragédie, mais simplement une hésitation. Entre deux intérêts, l'un momentané, l'autre durable et important, on peut dire que, en somme, le choix est tout choisi. Pour un homme qui est digne de ce nom, le choix est choisi d'avance, l'instant pèse moins lourd que l'intervalle, vaut moins cher et moins important, tout au moins pèse moins lourd arithmétiquement, rationnellement, physiquement, et à moins de poids, et ainsi de suite. Et pourtant, on a l'autre sens, ce cas qui ne ressemble pas à ce que nous appelions la tentation, puisque l'homme n'est pas vraiment déchiré, en un autre sens, il y ressemble quand même un peu. Et nous retrouvons un certain droit de parler d'une nation. Il y ressemble un peu, parce que bien qu'il s'agisse de deux intérêts comparables, l'un qui est celui de l'instant, l'autre qui est celui de la plus longue durée, malgré tout, il y a une hétérogénéité irréductible, une incomparabilité, non point absolue, mais relative, entre ces deux intérêts. On ne peut point, en un sens, comparer le plaisir de l'instant et le bonheur de l'intervalle. Et on conçoit très bien même un homme raisonnable qui se dira, après tout, par rapport à l'infini de la raison, de l'éternel, devant l'éternel, et le bonheur de toute ma vie, ou l'absence d'indigestion, sous prétexte que je n'aurais pas mangé le fruit, ça ne vaut pas plus cher que le plaisir que je vais me donner, n'est-ce pas ? L'un et l'autre tendent à s'annuler par rapport à l'infini, donc le mieux est peut-être de manger ce fruit. Donc, l'instant pèse moins lourd que l'intervalle, à condition qu'on ne compare pas deux choses finies, que le fini et l'infini, et qu'on ne compare pas le fini et l'infini. Or, on peut très bien dire qu'entre la volupté immédiate, le plaisir sans mélange que je vais avoir à manger le fruit, d'une part, et d'autre part, cet ennuyeux bonheur qui consiste à n'avoir pas d'indigestion, mais à condition de se priver de tout, il n'y a pas de commune mesure. Ils sont incommensurables à l'autre, et que même un homme doué de raison, par exemple un épicurien super raisonnable, plus raisonnable qu'un sordide, à la petite semaine, est parfaitement capable de nous commander de manger le fruit, n'est-ce pas, au risque d'être malade, et en nous montrant que ça n'a pas tellement d'importance. C'est donc, malgré la ressemblance relative des deux choses qui sont en conflit, dans ce combat, il y a quand même une dissimilitude qualitative entre les deux, entre un tien et un tu l'auras, n'est-ce pas, entre un tien instantané, naturellement, qui dure très peu sur l'horloge, mais qui par contre me paye comptant, n'est-ce pas, c'est une jouissance incontestable, une évidence au sens épicurien du mot, qui me paye constant, et un tu l'auras qui durera peut-être toute ma vie, mais qui n'a ni goût, ni saveur, ni odeur, insipide, incolore, inodore, il a beau durer toute ma vie, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse si je ne ressens rien ? Et il y a donc, comme vous voyez, malgré tout, une dissemblance qui redonne à ce combat l'allure d'un débat, c'est-à-dire d'un déchirement un peu passionnel, qui redonne vie à la tentation. Et qui fait que malgré tout, un homme qui a envie de manger un fruit, mais à qui les médecins défendent de manger ce fruit, est quand même en situation relativement passionnelle. Il est quand même un peu tenté, sans compter que d'ailleurs, j'aurais pu dire aussi qu'il y a une espèce d'attrait paradoxal, pervers, à faire une chose que l'on sait folle, une chose que l'on sait néfaste, pernicieuse. De quel nom appeler cet attrait ? Ce n'est point de la perversité, puisque la perversité, c'est plutôt dans le cas de la morale. Je fais une chose mauvaise parce que je sais qu'elle est mal, n'est-ce pas ? Mais à condition qu'elle soit mauvaise moralement. Ici, il s'agit simplement de ma santé et de mon utilité. Et c'est plutôt, de nouveau, le désir du néant qui est en jeu. Et donc, d'une autre manière, nous retrouverions dans ce cas quelque chose qui ressemble malgré tout à la tentation, même dans ce conflit de la raison et de la pétition, ce conflit de l'intérêt immédiat et de l'attrait lointain du bonheur. Et enfin, en quatrième lieu, ou presque enfin, puisqu'il y aura un post-scriptum, mais un peu en dehors déjà de notre propos. Et en quatrième lieu, il faudrait placer les tentations proprement dites, n'est-ce pas, celles qui font l'objet de notre recherche cette année, c'est-à-dire les débats tragiques, les déchirements dans lesquels ce qui me retient n'est point la raison, n'est point, mais le bien, est une loi non écrite, une loi surnaturelle, une loi qui n'est pas indiquée dans les traités d'arithmétique, dans les traités de médecine, de prophylaxie médicale, sur lesquels les médecins sont muets, n'est-ce pas, et qui diffèrent des autres, autant que, selon Épictète, au début des entretiens, diffèrent la grande question radicale, originelle, de savoir en général s'il faut faire ou ne pas faire, et puis les questions dérivées, les questions secondaires et hypothétiques auxquelles répondent les manuels, les techniques. S'il est bon de conserver sa santé, et tout le monde conviendra que c'est mieux, eh bien voici les mets qu'il est préférable de manger. Eh bien il s'agit donc maintenant de l'impératif catégorique du devoir, c'est-à-dire d'une loi dont nous disons qu'elle est, elle n'est pas écrite, c'est-à-dire que ce qui est ce qui est défendu n'est point une chose nuisible ou dangereuse ou trompeuse, mais une chose immorale ou mauvaise, bref, une chose qui n'a pas de valeur. L'envie, et ceci même peut dire, est une non-valeur. C'est le contraire de la valeur. C'est un démenti à la valeur. À la valeur pris dans son... La valeur tout court, n'est-ce pas ? Quand on dit valeur sans adjectif, quand on dit sans spécifier si c'est la valeur marchande, la valeur pour les bijoutiers, pour la bourse, pour la santé, pour les sportifs ou pour les marchands de peinture, eh bien, quand c'est la valeur tout court, ça ne peut être que la valeur morale, n'est-ce pas ? La valeur qui n'a pas d'adjectif. C'est elle et seule qui est maintenant en question. Donc, nous arrivons au cas de la tentation proprement dite, et nous comprenons les raisons pour lesquelles la chose, sinon le mot, n'existe presque pas en grec. Pourquoi les Grecs ne l'ont presque pas connu ? Ils ne l'ont presque pas connu et n'en parlent pour ainsi dire jamais. Ils ne savent pas ce que c'est, parce que chez eux, l'apparence, nous l'avons montré lorsque nous parlions pendant toutes les séances où nous nous sommes entretenus sur les sirènes et sur leurs chants, nous savons que l'apparence, en général, chez eux, n'est point la vérité, mais qu'elle est quand même une partie de la vérité. Elle est une vérité incomplète, une vérité partitive. Elle est quelque chose de la vérité, bien qu'elle-même ne soit pas vraie. Mais surtout, elle n'est point trompeuse et ni perfide. Elle est simplement incomplète. C'est chez les chrétiens que l'apparence devient un principe d'attraction perfide et trompeuse. C'est pourquoi la tentation qui est inconcevable chez Socrate, n'est-ce pas ? Ni le mot ni la chose ne figure chez lui, et il ne figure pas chez Socrate parce qu'un homme qui sait le bien n'a aucune raison d'avoir envie de faire le mal, vu que lorsqu'il sait le bien, il devient tout entier, comme dira Spinoza, automaton spirituale. Il devient une sorte d'automate spirituel. Il n'y a en lui aucune raison capable de s'opposer à ce qu'il fasse ce bien. Et donc, aucune raison pour qu'il soit tenté. Et c'est au contraire plus tard, c'est déjà chez les poètes, puisqu'on cite souvent le vers latin « video meliora proboque deteriora sequor », c'est-à-dire que c'est la scission du video probo et du sequor, n'est-ce pas ? La scission du « je vois, j'approuve » et d'autre part « je fais », qui est cette scission qui est proprement chrétienne et qui explique le péché et dont saint Paul a eu un sentiment si aigu. Et c'est elle qui n'existe pas chez Socrate et les socratiques, ni chez Platon, et qui ne pouvait pas exister chez eux, parce que il n'y a pas chez eux une faiblesse irrationnelle et constitutionnelle de la créature. C'est-à-dire l'état d'une créature qui sait où est le bien, qui sait ce qu'il faudrait faire, et qui applaudit le bien, elle le sait, elle applaudit, elle le salue respectueusement, et après l'avoir salué, et fait mille salam alek, elle va à son plaisir. Voilà un pécheur, n'est-ce pas ? Le pécheur est donc celui qui reconnaît ce qu'il devrait faire, et fait le contraire, et au mieux il le fait parce qu'il est entraîné par la chair, et au pire il le fait par plaisir, parce qu'il sait qu'il ne faut pas le faire. Voilà donc littéralement quel est l'entraînement proprement dit de la chair, et c'est une autre façon de dire, d'expliquer ce dramatisme de la tentation. La tentation sous la forme paulinienne, chrétienne, moderne, n'est une tentation que parce que l'homme a maintenant l'idée d'un entraînement de la chair, ce que nous appelions concupiscence il y a 3 semaines. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un élan autonome, autochtone, on devrait dire même automatique, enfin, de la chair, indépendant du dictamen raisonnable. Saint François de Sales lui-même, traduisant Saint Paul, ou croyant le traduire, dit « la chair convoite contre l'esprit ». Introduction à la vie dévote, dans la 4e partie, là où il parle longuement de la tentation, non pas pour nous éclairer à son sujet, mais pour nous montrer comment il faut les vaincre. La chair convoite contre l'esprit, ce qui veut dire il y a une autonomie dans l'élan charnel, une autonomie propre au corps, qui fait qu'il ne suffit pas d'être édifié, de savoir ce qui est bon ou mauvais, pour le faire. L'homme n'est donc pas un pur esprit. Il n'est point un automaton spiritualé, et il faut tenir compte, donc, tout simplement, de la concupiscence, puisque c'est son nom. Et par exemple, pour donner un exemple plus précis, céder à bon escient et en connaissance de cause aux facilités du mensonge. J'aurai probablement l'occasion de parler de cette tentation. Parce que c'est une chose facile et tentante que de ne point dire, dans certaines circonstances, la vérité. Une commodité, n'est-ce pas ? De ne point dire ce que l'on est, de ne point dire ses opinions, son âge, et notamment ses opinions selon les salons, la couleur des salons que l'on fréquente. Les circonstances s'y prêtent beaucoup aujourd'hui, à Paris, n'est-ce pas ? Où les gens peuvent avoir des opinions différentes selon les milieux qu'ils fréquentent. Eh bien, cette tentation de la parole libre, qui nous permet de ne point dire ce que nous sommes, est donc une facilité, et mais dans la condition de ce mensonge, c'est que l'homme sache, bien entendu, ce que c'est que la vérité, et nous saisissons là, et le mensonge, et nous saisissons là une des raisons pour lesquelles Platon n'a point connu l'essence du mensonge, et niait même qu'elle pût exister. Mais nous ne nous laissons pas entraîner sur ce point, et montrons plutôt maintenant, car c'est le point, l'illustration la meilleure que je pourrais peut-être donner, et que je achèverai la prochaine fois, comment se distingue à cet égard, dans les deux exemples privilégiés que je me permet de confronter, bien qu'il n'ait pas tellement de rapport, il n'était même aucun rapport entre eux, la tentation prélapsaire, supralapsaire, comme disent les théologiens, antérieure au premier péché, la tentation adamique dans la Genèse, qui est une tentation métaphysique, supraéthique, et la tentation de Jésus, qui est au contraire une tentation morale, dans un monde moral, dans lequel il y a déjà des tables des valeurs, des pécheurs, un monde impur et corrompu. Donc, voilà la différence entre la tentation métaphysique originelle, qui était notre numéro 1, celle dans laquelle l'interdiction est arbitraire, et une tentation qui est déjà de l'ordre moral, parce que bien que Jésus soit entraîné par le diable, qui lui propose des choses insensées, lui fait miroiter des choses insensées, on peut dire qu'il est soumis à une épreuve humaine, n'est-ce pas, en quelque sorte, bien qu'elle soit à une échelle incompréhensible pour nous. D'abord, vous remarquerez même l'encadrement moral lui-même qui montre que la première tentation n'a point un caractère moral alors que la deuxième en a un très prononcé, c'est que la créature, dans le premier cas, cède au premier assaut. Elle cède sans discussion dans cette tentation supra-historique. Les défenses de l'homme s'écroulent tout de suite. C'est la débandade. Si bien que le serpent n'a pas longtemps à plaider, ni à faire l'article, Adam est convaincu d'avance. Ils ont tout de suite convaincu la femme, surtout. Elle est convaincue tout de suite. Il n'y a pas de résistance. Donc, Adam et Ève sont des faibles, des naïfs, sans caractère, sans volonté, et ils croient au boniment du premier reptile venu, du premier serpent venu. Et comme tout à l'heure nous le disions, ils ne se servent pas de la liberté qui leur a été donnée, et ils succombent immédiatement. D'ailleurs, parallèlement à cette capitulation sans condition, nous avons remarqué que la défense elle-même, le veto, a un caractère factice, grammatique, littéral. Il ne dit pas ses raisons. On dirait, et en effet, qu'il n'existe que pour être enfin. Le veto n'existe que pour être outrepassé, et pour permettre ainsi l'articulation et l'amorçage des événements de l'histoire, pour permettre, en somme, le déniaisement de la créature. Il a donc un caractère artificiel. Eh bien, dans le cas, au contraire, de Jésus, nous assistons à un croisement, à un chiasme paradoxal par rapport à la première créature. Dans le premier cas, c'est le repu qui faiblit, n'est-ce pas ? C'est le repu qui faiblit et c'est l'affamé qui résiste. Vous remarquez d'abord cette opposition. C'est le repu qui faiblit alors qu'il devrait être fort, comme tous les gens bien nourris, n'est-ce pas ? Il a toutes les conditions comme ceux qui sont bien gavés. Pour dire non, et c'est lui qui faiblit. Et inversement, c'est l'affamé qui résiste, alors qu'il devrait être faible, puisqu'il n'a pas mangé. Donc, le fort faiblit, et le faible, au contraire, résiste. Voilà ce que nous aurons à approfondir la semaine prochaine.